suis tellement content d'être avec vous ce matin et de pouvoir continuer et avancer dans cette série intitulée « En chemin vers la résurrection ». Il y a tellement de choses que l'on peut considérer et que l'on peut reconsidérer à travers la résurrection. Et alors qu'on traverse cette série qui va tranquillement nous amener sur le week-end de Pâques, j'aimerais poser cette question pour démarrer ma prédication de ce matin. Que représente la résurrection pour toi ce matin? Quelle image nous avons de la résurrection? Qu'est-ce que nous pensons au sujet de la résurrection? Est-ce que la résurrection est un fait, un événement historique? Certains chrétiens pensent que oui, la résurrection est un fait historique. Et assurément, c'est un fait historique. C'est quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui a pris place dans notre monde, dans notre société, des millénaires en arrière. Mais ce n'est pas que cela. Certains chrétiens pensent simplement que c'est un événement historique. Oui, Jésus est ressuscité. OK, et la suite? Bon, la suite, on ne la connaît pas. D'autres personnes qui, eux, athées, pensent que l'événement ne s'est jamais produit. Pourtant, la résurrection est une réalité. C'est une réalité intervenue et c'est ce qui fait le fondement de notre foi chrétienne. C'est ce qui fait que nous sommes là ce matin, rassemblés, réunis pour adorer celui qui a vaincu la mort. Elle est le fondement de la foi chrétienne, la résurrection. C'est pas un rite, c'est pas des histoires, c'est pas des légendes. On ne s'accroche pas à une hérésie pour bâtir nos rassemblements. Non, non, non. Notre foi est bâtie sur un nom, sur une personne. Une personne qui a vaincu la mort des milliers d'années en arrière. La réalité, c'est que quand Jésus est mort, les disciples ont commencé à annoncer que Jésus était ressuscité. Et alors, que l'annonce commence à s'étaler, les chefs religieux ont voulu prouver que c'était faux, c'était pas vrai. Il y avait comme une mascarade tout autour de ça. Les Romains également ont voulu prouver que Jésus n'est pas ressuscité. Mais sais-tu quoi? Aujourd'hui encore, les gens cherchent le corps de Jésus qui est mort. Ils le trouveront pas parce que Jésus est ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. Il est élevé à la droite du Père. La résurrection est un fait réel et sérieux. C'est une réalité, mais la résurrection n'est pas intervenue juste pour créer un buzz, un fait divers, mais elle est intervenue pour changer des choses, pour sauver des vies, pour renouveler des gens et transformer des cœurs, transformer toute personne qui va accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Je ne dirais pas autrement que ceci, la résurrection intervient pour les intérêts de l'humanité. La résurrection intervient pour mes intérêts, pour tes intérêts, pour les intérêts de tous ceux qui ne croient plus dans des possibilités de changement. La résurrection intervient pour de nouvelles possibilités, pour un projet de destinée transformé. La résurrection, elle est une source d'impact. Et elle n'est pas seulement un événement du passé, non, elle est une puissance transformante qui bouleverse notre présent et qui façonne notre avenir. J'ai la foi en celui qui a vaincu la mort. Je crois dans ce qui s'est passé en arrière. Je crois que ça affecte ma vie aujourd'hui et je crois que ça dessine mes projets de demain. La croix était pour être le point final du christianisme, mais la résurrection en a fait son point de départ. Tellement puissant de voir que quand l'ennemi prévoit quelque chose, Dieu l'utilise pour autre chose. La croix était le point final du christianisme, mais la résurrection a pris place et elle en a fait son point de départ. Mais avant que tout se mette en place, avant que l'évangile traverse les générations jusqu'à nous ce matin, est-ce qu'on peut s'arrêter un instant et imaginer l'état dans lequel les disciples de Jésus se sont retrouvés quand celui-ci est mort sur la croix? La Bible nous montre que alors qu'ils avaient mis leur espoir dans Jésus, ils avaient mis leur confiance en Jésus, mais alors que Jésus meurt sur la croix, leur monde s'est effondré. Ils ont été plongés dans un tourbillon d'émotions nouvelles, des choses indescriptibles, de la douleur, de la confusion, des interrogations, de la peur, du désespoir. Leur état émotionnel était caractérisé par la tristesse, la désolation et l'incompréhension. Ça, c'est l'état des disciples alors que Jésus meurt sur le bois de la croix. sont dans un tourbillon d'émotions négatives, des interrogations de qu'est-ce qu'on va devenir. Mais on a perdu 3 ans de nos vies juste pour ça. On s'est mis à dos les autorités politiques, les autorités religieuses. Les gens nous ont dans la ligne de mire. Est-ce qu'on sera les prochains à mourir? Leur foi avait littéralement vrillé, vacillé dans les ténèbres et dans l'incertitude. Tout ce qui était assuré pour eux avait été remis en question et ils se sont retrouvés comme des brebis égarées, comme des brebis qui cherchaient désespérément un berger pour les guider dans ce moment de grande difficulté. Et quand on regarde ça, oui, assurément, quand on regarde l'état de comment étaient les disciples, quand on regarde le résultat de ce qu'a produit l'œuvre de la croix, lorsque Jésus meurt sur le bois de la croix, la Bible nous montre que les disciples, tranquillement, ont glissé vers leur vie du passé. Très rapidement, ils sont repartis sur ce qu'ils savaient faire, sur ce qu'ils connaissaient. Et si on regarde ça avec un regard purement humain, on pourrait considérer, comme les disciples probablement l'avaient considéré, qu'ils avaient passé 3 années pour un échec total, pour quelque chose qui ne portait plus rien. Ils étaient, leurs émotions leur dictaient que tout ce que vous avez vécu, ça a servi à rien. Tous les projets que vous aviez sont morts dans l'œuf. Il n'y a plus de possibilité pour toi. Leurs émotions les conduisaient à voir un champ de négatif. J'aimerais dire ce matin, c'est notre cas pour nous aussi, que nos émotions vont toujours nous conduire dans des voies sans issue. Mais la résurrection est l'issue qui nous ouvre la voie et qui va nous conduire. C'est ça la résurrection. La résurrection, c'est passer de « je suis devant le mur » à « je vois, je traverse et je vis ce qu'il y a derrière ce mur ». Nous découvrons ensemble ce matin comment ils sont passés d'un état lamentable à une vie renouvelée, transformée par la puissance de la résurrection. Comment leur désespoir a été remplacé par l'espoir. Comment leur incertitude s'est inclinée pour voir s'élever une foi complètement renouvelée. Parce que même dans les moments les plus sombres de nos vies, la lumière de la résurrection n'arrêtera jamais de briller. Même dans les moments les plus sombres de ta vie, quand tu penses que tout est fini, que tout est à l'arrêt, la lumière de la résurrection n'arrêtera jamais de briller. Le témoignage de la résurrection manifesté aux disciples est un message d'espoir pour les générations qui allaient suivre, jusqu'à Nouvelle Vie de Drummondville en 2024 ce matin. La résurrection, elle est le point d'impact qui a transformé des simples disciples en apôtres affermis. Des gens ordinaires, remplis de crainte, remplis de désespoir, en des leaders dispensateurs de la parole, témoins de la puissance transformatrice de la résurrection de Jésus-Christ. Ils n'ont plus jamais été le même. Il y avait un avant-résurrection, il y a eu un après-résurrection. Ça a changé leur vie littéralement. Tout comme n'importe quelle personne qui reconnaît l'œuvre de la croix, la résurrection pour sa vie, peut voir sa vie être transformée par le pouvoir de la résurrection. Parce que la résurrection de Christ produit en nous un impact identitaire, un renouvellement intellectuel et une espérance inébranlable. L'apôtre Paul va faire cette déclaration aux Galates. Dans Galates 2:20, il dira « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » Il s'est livré lui-même pour moi. Et je dirais de cette manière, à l'image de l'apôtre Paul, nous sommes appelés non seulement à entendre l'histoire de la résurrection, mais nous sommes surtout appelés à vivre notre propre histoire dans la résurrection de Christ. Il y a eu un avant et un après Jésus. Et il y a un avant et un après pour toute personne qui saisit la puissance de l'œuvre de la résurrection. C'est littéralement découvrir une œuvre extraordinaire qui va produire en nous l'extraordinaire. Il produit l'extraordinaire parce que l'œuvre de la résurrection, l'impact de la résurrection dans ma vie, comme dans la vie des disciples, elle va renouveler ma foi. La résurrection nous transforme et nous conduit dans un renouvellement de notre foi. Les premiers disciples ont été littéralement transformés par la résurrection. Ils ont été accablés par la crucifixion, ils ont été désespérés par la crucifixion, mais ils ont été restaurés, transformés par la résurrection. Ils croyaient premièrement avec une foi fragile. Ils basaient leur foi dans ce qu'ils connaissaient, dans ce qu'ils voyaient. Ils basaient leur foi sur Jésus qui était là, sur Jésus qui faisait, sur Jésus qui était avec eux. Et la croix est venue briser tout cela. La croix est venue porter une rupture dans leur foi. Ils ont été, comme je le disais tout à l'heure, ils ont été ébranlés par le choc de la croix. Et toute leur confiance a volé en éclats. Et leur foi est morte avec Jésus à la croix. D'un point de vue purement humain, ils ont littéralement pris un coup de massue. Ils ont été plongés dans le désespoir, dans la confusion. Une perte de repère pour eux. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Une incertitude quant à leur avenir. Une confusion même qui les a conduits au désespoir. Une confusion à tel point qu'ils ont oublié tout ce que Jésus leur avait enseigné. Une confusion qui les a conduits au désespoir et à l'abandon pour même retourner à leur activité précédente. Retourner dans ce qu'ils étaient avant leur rencontre avec Jésus. Sais-tu que nous pouvons tous nous identifier dans ces phases de vie des disciples? Ça peut être, tu aurais pu être un des disciples. Tu peux aujourd'hui être un des disciples. Tu peux être un disciple parce qu'on est tous des candidats potentiels pour être déconcertés par les situations qui interviennent. Perdus, désespérés. On est tous des candidats potentiels pour être comme dans l'incapacité de voir une issue dans nos vies, dans nos situations. On est tous des candidats potentiels pour être au bord de l'abandon, au bord du désespoir face à ce que nous vivons. Mais la bonne nouvelle, je t'adresse ce matin une bonne nouvelle, c'est que comme pour les disciples, les périodes sombres de nos vies ne sont pas appelées à durer, mais elles sont appelées à devenir le terreau dans lequel nous allons planter une résurrection extraordinaire en Jésus-Christ. La résurrection est le point et le pivot du changement. Ça m'appelait à vivre une résurrection qui transforme la douleur en joie, qui transforme le désespoir en espérance, qui change une foi vacillante en une conviction inébranlable. L'apôtre Pierre va faire cette déclaration dans 1 Pierre 1. Il va dire au verset 3 et 4, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. » Pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, mais réservé dans les cieux pour vous. C'est la déclaration de l'apôtre Pierre. Il déclare que l'impact de la résurrection a renouvelé ma foi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que l'impact de la résurrection peut renouveler ta foi. Elle peut te transplanter dans une dimension nouvelle où ta foi n'est plus basée sur ce que tu vois, mais sur ce que tu crois. C'était le problème des disciples, c'est qu'ils avaient basé leur foi sur ce qu'ils voyaient. Jésus était là, Jésus faisait. Leur foi était basée sur ce qu'ils voyaient. Mais alors que Jésus meurt à la croix, il n'y a plus de repères. Et littéralement, la foi n'est plus appelée à être basée sur ce que nous voyons, mais sur ce que nous croyons. La résurrection transforme notre vision en conviction. Transforme notre vision, ce que nous voyons de Jésus, ce que nous entendons, en une conviction certaine, en une assurance que l'ennemi ne peut pas nous enlever. C'est le passage de la foi en ce que je vois, de ce que je connais, à la foi dans la puissance invisible du Saint-Esprit, annoncée par un Jésus vivant et envoyée par un Jésus ressuscité. Il avait annoncé de son vivant, « Voici, je vais vous envoyer ». Mais lorsqu'il ressuscite, lorsqu'il est élevé à la droite du Père, il envoie celui qu'il avait annoncé. Littéralement, la résurrection nous permet d'entrer dans la puissance invisible du Saint-Esprit que Jésus avait annoncé. Comprenez qu'alors que Jésus est sur la croix, peut-être tout le monde est Satan, les disciples sont peut-être cachés et s'attendent à quelque chose de grand. C'est Jésus, et il a dit que c'est le Fils de Dieu. Attends, peut-être caché en arrière par peur des autorités, mais peut-être ils sont là, puis ils s'attendent à voir les grandes choses prendre place à la croix lorsque Jésus est en train de souffrir et sur le point de mourir. Peut-être ils sont là, puis ils disent, hey, ça va arriver, hey, c'est la dernière minute. Mais sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Jésus est mort. Peut-être qu'ils s'attendaient à quelque chose de grand. Peut-être qu'ils s'attendaient à ce que c'est le moment où la trompette va sonner, les anges vont descendre, etc. Puis alors, ils sont là, dans un dernier espoir, ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas arriver. Qu'est-ce qui se passe? Jésus meurt. Puis peut-être que ça te parle ce matin, peut-être que c'est toi ce matin. Peut-être qu'il y a des situations dans lesquelles tu es, où tu dis, ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas arriver. Puis c'est comme tout est en train de mourir autour de toi. Tes projets sont en train de mourir. Ton mariage est en train de mourir. Tes relations sont en train de mourir. Quelqu'un doit entendre ceci. La mort de Jésus ne résulte pas de la croix. La mort de Jésus résulte du choix qu'il a fait. Elle ne résulte pas de la croix qu'il retenait, elle résulte du choix qu'il a fait. Je ne sais pas ce que tu as enterré. Je ne sais pas ce qui est mort en toi, mais je sais et je connais celui qui peut ressusciter. Je connais celui qui peut ressusciter. La mort de Jésus ne résulte pas de la croix qui le retenait, mais du choix qu'il faisait, parce que la mort ne pouvait pas gagner. Jésus faisait simplement ce qu'il avait décidé, annoncé et expliqué. Jean 10, 18 nous dit que Jésus dit « Personne ne m'ôte la vie. C'est moi qui la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, mais j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est ça l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Mais à cet instant-là, alors que Jésus meurt à la croix, et plus personne n'est capable de comprendre ces paroles, et le cours de la vie pour les disciples est redevenu à la normale. Nous avons tout perdu, nous avons tout abandonné, tout est mort à la croix. Peut-être ce matin, tu es retourné toi-même dans une vie normale, parce que tes rêves ont été brisés, parce que tes espoirs sont morts et enterrés, à cause d'une situation soudaine, à cause d'une histoire de vie, à cause de difficultés peut-être que tu as traversées. Peut-être que tu es extérieurement vivant, mais intérieurement, tu es mort. Et chaque jour qui passe fait de toi un survivant. Tu peux ce matin saisir le miracle de la résurrection. Tu peux ce matin saisir le miracle de la résurrection. Ne considère plus ce qui est mort dans ta vie comme la destination finale quand Jésus dit « c'est une étape ». Souvent, nous considérons les choses de nos vies que nous voyons mourir, nous les considérons comme des destinations finales, mais bien souvent, Jésus dit « c'est une étape ». C'est une étape. Ce qui est mort va revivre. Ce qui est mort va refleurir. Ce qui est mort va revenir à la vie. C'est alors que les disciples, littéralement, sont KO, retournés à ce qu'ils étaient, et que peut-être dans une partie de pêche, ils sont dans les souvenirs du passé. C'était tellement bon ce qu'on vivait avec Jésus. C'était tellement bon. Ça s'est fini tellement brutalement. Oui, mais maintenant, on ne peut plus. Maintenant, on est passé à autre chose. Maintenant, on a repris nos cannes à pêche, on a repris nos filets et on a repris le travail. Oublie ces choses du passé. Oublie, c'était une époque. Oublie, c'est fini, c'est mort. Ça ne se reproduira plus. C'est au moment où les disciples sont KO que la révélation de Jésus ressuscité va transformer leur destinée. Est-ce que tu es KO ce matin par certaines situations? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie que tu as vues, tu te dis, c'est plus possible, ça ne reviendra plus à la vie. C'est au moment où les disciples n'y croient plus, que Jésus va venir ressusciter devant eux. Et c'est cette résurrection qui va régénérer leur foi. Luc 24, 44, 45 nous dit que Jésus leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Et le texte dit, alors il leur ouvrit l'esprit et ils comprirent les Écritures. La résurrection de Christ vient renouveler notre foi et régénérer notre relation avec le Seigneur. La résurrection de Christ vient nous donner la compréhension de la croix. Pourquoi Jésus devait mourir? Et les disciples ont constaté, il a accompli ce qu'il avait dit. Il a rendu vrai les prophéties. Il est sorti du tombeau. Il s'est présenté à nous vainqueur sur la mort. Nous sommes ce matin les témoins de cela. Et rien ne peut nous l'enlever. Rien ne nous l'enlèvera. Il a accompli ce qu'il avait dit. Il est le Fils de Dieu. Et je trouve en lui ma confiance. Il n'est pas un homme pour mentir. Il avait dit « Je ressusciterai » et il est ressuscité. L'œuvre de la croix, elle renouvelle ma foi et elle m'offre une confiance immuable. alors que la croix avait brisé la confiance et l'espoir, la résurrection les a rendus immuables. Alors qu'ils sont partis dépités devant un Jésus mort sur la croix, ils ont été restaurés devant un Jésus ressuscité. La confiance qui avait été brisée a été renouvelée. La confiance qui était instable est devenue immuable. Avant la résurrection, ils avaient bâti, comme je disais, leur confiance était bâtie sur l'homme de Galilée qui les enseignait. Mais alors que la croix est venue faire voler en éclats la confiance et l'espoir, la résurrection est venue régénérer, sceller leur confiance en Dieu et en sa capacité d'accomplir l'impossible. Quelqu'un doit entendre ceci. La résurrection, elle est le pivot de notre foi. Elle est le pivot d'une confiance immuable, une confiance que rien ne peut nous enlever parce qu'elle révèle que la mort n'a pas d'autorité sur Jésus. Même la mort n'a pas d'autorité sur Jésus. Il est le maître de la vie. Il est celui qui triomphe même de la tombe. Il est celui qui fait reculer les forces des ténèbres. Il est celui pour qui aucun pouvoir ne peut le lier. Mais c'est lui qui nous donne le pouvoir de lier et de délier. Il est celui qui a l'autorité sur les maladies. Les maladies s'effacent à la mention de son nom. Les démons tremblent, et s'enfuient devant lui. C'est ça le pouvoir de l'œuvre de Jésus. C'est ça le pouvoir de l'œuvre de la croix. C'est ça le pouvoir de l'œuvre de la résurrection. La croix était pour l'arrêter, mais la résurrection l'a littéralement propulsé jusqu'à nous ce matin. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est celui qui tient parole. Il est celui qui offre une confiance immuable, une confiance inéchangeable. Non, je n'enlèverai pas la confiance que j'ai en mon Jésus. Rien ne pourra me l'enlever. Tu ne peux pas me l'acheter. Tu ne peux pas me la retirer. J'ai cette foi, j'ai cette confiance, cette assurance que ce que Dieu dit, que ce que Jésus dit, il va l'accomplir. Il va l'accomplir parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Nous vivons dans un monde où la confiance est brisée, où la méfiance est devenue monnaie courante. Mais au milieu de cela, dans une société où la confiance est brisée, Jésus se lève comme une source inébranlable de confiance. Il ne trahit pas, il ne ment pas, il tient ses promesses. Il l'avait annoncé, Matthieu 20, qu'il serait condamné à mort, il serait livré, on le moquerait, on le battra, on le crucifiera. Mais le troisième jour, il ressuscitera. Et Jésus est ressuscité. Et Jésus est ressuscité. Il n'est pas un homme pour mentir. Aussi, il annonce encore ce matin que tout ce qui est mort est appelé à revivre. Tout ce qui est mort dans ta vie est appelé à revivre. Jésus nous appelle, comme Pierre, à vivre dans une foi et une confiance régénérée. Le résultat de la résurrection, c'est la régénération. C'est la régénération en nous. La régénération, c'est la recréation de ce qui n'existe pas ou de ce qui n'existe plus. Et je cherchais une image pour démontrer c'est quoi la régénération, c'est quoi littéralement l'œuvre que la résurrection fait en nous. Et je suis revenu un peu sur mon historique de vie. Et quand on a eu notre deuxième garçon, il y a eu un problème de santé dans son corps avec un fémur, un os de sa jambe qui littéralement ne grandissait pas à la même vitesse que le restant de son corps. Ce qui fait que lorsque arrivé à 10-11 ans, il y avait un écart de jambe de 7 cm. Et alors qu'on était rendu avec 7 cm d'écart, comme on peut voir sur des photos là, ils ont dû faire une opération et ils ont coupé l'os en deux et avec des mécanismes, ils ont tiré et étendu la jambe 7 cm. Ouais, mais il n'y a rien dans ces 7 cm, c'est le vide, c'est le néant. Et moi, ma question, c'était, docteur, oui, mais comment ça va se passer? Parce qu'il avait un appareil à l'extérieur de la jambe, gros mécanique. Et je dis, mais il ne va pas rester avec ça toute sa vie. Non, non, monsieur. Parce que lorsque l'os est coupé, lorsque l'os est étiré, il y a un processus qui prend place que seul le corps humain peut gérer, qui s'appelle le régénérat osseux. C'est-à-dire que là, lorsque l'os est coupé, il y a une régénération automatique qui se fait dans le corps. Mais pas une régénération n'importe comment. Ça part pas à gauche, à droite. Non, non. C'est comme si les deux morceaux étaient appelés à se rejoindre. Et alors que le temps passe, il y a un régénérat osseux qui se recrée et qui reforme littéralement un os tout seul. Et savez-vous, c'est quoi la particularité de ce que le médecin m'a dit? Il m'a dit, La particularité de ce mécanisme automatique de notre corps, c'est que le régénérat est plus solide que l'os de base. C'est ça que fait la résurrection dans nos vies. Elle vient régénérer notre foi. Elle vient régénérer notre confiance. Ce qui a été peut-être à vous, dans ta vie, il y a des choses qui ont été brisées. Peut-être il y a des choses qui ont été étirées. Puis c'est le vide en ce moment. Je t'invite à entrer dans la résurrection parce que c'est ça qui va régénérer et qui va rendre ta foi solide, ta confiance solide. Les disciples avaient une foi fragile, mais alors qu'ils ont rencontré Jésus ressuscité, ils ont été régénérés. Et leur foi n'a jamais plus été la même. Et leur foi n'a jamais plus été confrontée. Certains sont morts pour leurs convictions. Leur foi, ils avaient l'assurance. Pourquoi ? Parce que l'œuvre dans leur vie, la régénération fait que leur foi était tellement solide que rien ne pouvait la briser. Ils savaient et ils connaissaient qui était Jésus. La résurrection dans nos vies, elle renouvelle notre foi. Elle nous donne une confiance immuable. Et elle opère une transformation personnelle en nous. Une foi renouvelée et une confiance solidement ancrée en Jésus sont les fondements d'une vie transformée. Parce que la foi renouvelée et la confiance ancrée brisent les limites qui nous retiennent. J'irai au-delà de ce que je vois pour m'appuyer sur ce que je crois. C'est ça qui a fait passer une poignée d'hommes sans instruction, de disciples, à bâtisseurs de l'Église. Ils sont passés de gens qui recevaient des enseignements à des gens qui ont dispensé les enseignements. Ils sont passés de gens qui voyaient quelqu'un agir à des gens qui ont commencé à agir. Ils sont appelés de gens qui, peut-être, n'avaient aucune capacité, aucun projet à des bâtisseurs de l'Église comme nous la connaissons aujourd'hui. Parce que comprendre la résurrection, elle produit en nous une transformation. C'est lorsque nous considérons la résurrection de Jésus que nous sommes littéralement transformés. De Corinthiens 5, 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et toutes choses anciennes sont passées. Mais toutes choses sont devenues nouvelles, régénérées dans la résurrection. » Et souvent, lorsqu'on partage ce passage, toutes choses sont devenues nouvelles, les gens disent, oui, mais si toutes choses sont devenues nouvelles, comment ça se fait que j'ai toujours les mêmes galères dans ma vie ? J'ai jamais posé la question lorsque la Bible nous dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, mais pourquoi mon voisin qui est tannant est toujours tannant, puis il est encore plus tannant aujourd'hui ? Oui, mais pourquoi mon chef de ligne au travail qui me persécute, il continue à me persécuter ? Si toutes choses sont devenues nouvelles, pourquoi le monde est toujours méchant ? La résurrection ne change pas le monde dans lequel nous vivons. Elle change la façon dans laquelle nous vivons dans ce monde. Elle ne change pas le monde dans lequel nous vivons. Elle change la façon dont nous vivons dans ce monde. Elle ne change pas le monde, elle te change toi, la résurrection. N'attends pas que la résurrection en toi change les autres. La résurrection, elle te change toi. Et c'est ça que nous devons comprendre. La résurrection nous change, nous, pour impacter le monde. Ne pas comprendre ceci, tellement dommage, parce que ça nous emmène dans la restriction. Nous marchons soit dans la résurrection qui ouvre le champ des possibles, soit dans la restriction qui nous empêche d'avancer. Et souvent, on attend que la résurrection change le monde, les circonstances, les événements. Et parce qu'on ne le voit pas arriver, on est comme dans une restriction de nos mentalités, de nos capacités, de nos possibilités. Mais quand nous réalisons que le pouvoir de la résurrection nous impacte, nous. Comme Paul, nous nous identifions comme morts à nous-mêmes et ressuscités avec Christ. Et c'est là qu'on devient supérieur. C'est là qu'on devient vainqueur, même sur tout ce qui est mort. C'est là qu'on devient vainqueur sur les puissances démoniaques. C'est là qu'on a l'autorité sur Satan lui-même. La résurrection de Christ, elle a eu un impact profond et transformateur sur la vie des disciples. Et elle peut avoir sur nos vies ce matin un impact profond. C'est une assurance. C'est un événement qui n'est pas historique. C'est un événement qui est perpétuel. C'est un événement qui n'est pas figé dans le temps. C'est un événement qui traverse le temps pour se rendre à toi ce matin. C'est un événement qui n'est pas limité à ceux qui ont répondu à l'appel. C'est un événement qui est pour tous ceux qui entendront l'appel, aussi loin qu'ils sont et d'aussi loin qu'ils viendront. La résurrection de Christ nous appelle à Christ pour régénérer notre foi, nos actions, nos pensées et nous faire prendre conscience que la mort n'a plus d'autorité. Il y a des choses en toi que tu penses que c'est mort, mais Jésus dit, je veux les appeler à revivre. Ne pense plus par rapport à ce que tu vois, mais commence à penser sur ce que tu crois. Rappelle-toi mes promesses. Spurgeon a déclaré ceci, Charles Spurgeon a dit « La résurrection de Jésus-Christ nous rappelle que la mort n'a pas le dernier mot, mais que la vie triomphe toujours. » Quelqu'un doit entendre ce matin, il n'y a rien qui s'oppose au pouvoir de la résurrection pour ta vie. Ton histoire ne peut t'empêcher de vivre la résurrection. Tes œuvres passées, tes actions, tes décisions ne peuvent pas t'empêcher de vivre la résurrection. Ta situation présente, tes blessures passées, tes blessures actuelles, les tourments, ta détresse ne peuvent pas t'empêcher de vivre ta résurrection. Quelqu'un doit l'entendre, mais tu peux vivre un avant et un après Jésus. Tu peux vivre la résurrection. Mais il n'y a pas de résurrection sans crucifixion. On est toujours prêt à entendre, vas-y Seb, prêche-nous les histoires de la résurrection. On veut savoir que tout ce qui est en nous peut revivre. Il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas de crucifixion. Il n'y a rien qui revit s'il n'y a rien qui meurt. Et quelquefois, il y a des choses dans nos vies qu'on a besoin d'amener à mourir pour les voir revivre. C'est parce que Jésus est entré dans la mort qu'il a pu se présenter ressuscité. Luc 24, 36, 40 nous dit que lorsque les disciples parlaient, il se présenta au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Mais la réaction qu'ils ont eue, c'est qu'ils ont été saisis de frayeur et d'épouvante. Ils croyaient voir un esprit. Voici ce dans quoi les disciples étaient retournés. Ils étaient dans la crainte, dans le doute, dans la peur. Et Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève dans vos cœurs? Voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi !» Il dit « Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montrait ses mains et ses pieds. Souvent, nos actions sont portées dans nos doutes et nos incertitudes. Souvent, nos actions sont portées dans nos pensées restrictives. Indignité, culpabilité, incapacité, la honte. Puis je ne peux pas, puis c'est-y vrai, puis pourquoi, puis Jésus adresse un appel solennel ce matin. Jésus t'adresse un appel solennel ce matin. Il te dit, n'aie plus peur de venir. N'aie plus peur de venir dans ma présence. Jésus dira aux disciples, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi avez-vous des pensées comme ça dans vos cœurs? Et Jésus t'adresse un appel ce matin, pourquoi restes-tu troublé et pourquoi as-tu des pensées négatives dans ton cœur? Je suis la résurrection et la vie. Approche-toi de moi, viens toucher, viens voir ce que je suis capable de faire pour toi. La résurrection, elle intervient pour annuler les doutes dans nos vies. Elle annule les doutes et elle change l'incrédulité en certitude. L'évangile de Jean, chapitre 21, nous montre que lorsque Jésus est mort, il y a une désillusion qui a pris place. Les disciples ont abandonné. On ne pourra plus jamais vivre ce qu'on a vécu. Les disciples pensaient que tout était possible parce que Jésus était là. Mais la réalité, c'est que Jésus venait pour annoncer que tout serait possible jusqu'à la fin. Ils sont retournés à ce qu'ils connaissaient. La croix a amené l'incompréhension. La mort a amené l'incompréhension et le doute dans leur vie. Il y a des fois des situations dans nos vies, on les voit mourir et on est comme dans le doute. Ça remet en question notre foi, ça remet en question notre confiance, ça remet en question même parfois notre vie tout entière, comme pour les disciples. Mais j'aimerais te dire ceci, on n'est pas appelé en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que peut-être t'entends le message ce matin, tu dis mais moi je ne suis pas plus chrétien qu'autre chose, mais j'aimerais te dire que même pour toi ce matin, on n'est pas appelé à comprendre les situations, on est appelé à avoir confiance en toute situation. C'est ça la foi. La foi, c'est de croire ce que Jésus a dit. La foi, c'est de croire ce que Jésus a fait pour nous. Ce que nous ne pouvions pas faire, il l'a accompli pour nous. Il y a des choses dans nos vies. Il y a des choses dans nos vies qui doivent mourir. Il y a des choses dans nos vies qui peut-être sont mortes ce matin. Puis tu te dis, pourquoi ? pourquoi est-ce que je suis l'objet de souffrances permanentes? Il y a des choses que Dieu nous appelle à faire mourir dans nos vies. Il y a des choses que Dieu a mis à mort dans nos vies. Il y a des choses que Dieu nous appelle à faire mourir, non pas parce qu'on est destiné à souffrir, mais parce qu'on est destiné à voir Dieu les ressusciter, les transformer et les glorifier. Peut-être tu vis ta foi d'une manière aujourd'hui, mais Dieu te dit, dépose ça sur l'autel, dépose ça à la croix. Je vais renouveler ta foi, je vais renouveler tes pensées, je vais renouveler ta confiance. Tu dois entendre ça. Le pouvoir de la résurrection, il est permanent. Et il y a des choses qui sont appelées à revivre ce matin dans ta vie. Quelle est la résurrection que tu as besoin? Parce que la résurrection, elle est perpétuelle. Ce n'est pas historique, ce n'est pas passé, ce n'est pas dépassé. C'est passé, présent et futur. C'est une œuvre qui est conduite par un Dieu sans limite pour te voir avoir des résultats sans limite. Nous regardons ce matin, et c'est ma conclusion, comment la résurrection change mon incrédulité en une foi ferme. Peut-être tu es là ce matin et tu dis, je ne suis plus capable de le croire. J'aimerais te dire ce matin qu'il est possible pour toi de vivre une résurrection. Nous disons dans l'évangile de Jean un épisode de résurrection qui n'est pas la résurrection de Jésus, mais c'est un épisode qui prend place alors que celui qu'on appelle l'ami de Jésus meurt. Son nom, c'est Lazare. On connaît tous l'histoire de Lazare. Lorsque Lazare était l'ami de Jésus, Lazare tombe malade et Jésus et Marie envoient des gens chercher Jésus. Mais Jésus tarde à venir. Jésus tarde à venir. Et alors que Jésus arrive, Lazare est mort. Est-ce que des fois, tu penses, tu as l'impression que si Jésus était arrivé plus tôt, ça aurait pu changer quelque chose dans ta vie? Je veux te dire ce matin que si Jésus n'est pas arrivé encore, ça ne veut pas dire que Jésus ne va pas venir. Jésus a un plan. Jésus a un temps. Le texte nous dit qu'alors que tout le monde attend après Jésus pour guérir Lazare, Jésus arrive, mais Lazare est mort. Et le texte nous dit, Jean 11, 39 et 38 et 39, que Jésus, frémissant en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Et Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Ça fait 4 jours qu'il est là. Littéralement, elle dit, Jésus, t'es arrivé 4 jours trop tard dans mon affaire. J'avais l'assurance que tu pouvais intervenir. Mais si t'étais arrivé 4 jours plus tôt, mon frère ne serait pas mort. Peut-être tu es là ce matin et tu te dis, si Jésus était arrivé plus tôt dans ma situation, dans mes relations, dans mes projets, dans mes destinées, ça ne serait pas mort. Mais Jésus te dit ce matin, je suis le maître des éléments, je suis le maître du temps. Parfois, la mort règne autour de nous et on ne croit plus capable les choses de changer. On n'est même plus capable d'y penser. On n'est plus capable d'espérer. Et c'est la situation de Marthe. Elle se tient devant un tombeau où son frère est embaumé. Son frère est mort. Mais Jésus va dire, où est-ce qu'il est? Il est là. On a roulé la pierre. C'est fini. Il n'y a plus de possibilité, Jésus. T'es arrivé en retard. T'es arrivé trop tard. Et à cause de ça, mon frère est mort. Il y a des choses dans nos vies qui sont mortes, mais nous ne pouvons pas accuser Jésus. Nous ne pouvons pas accuser Dieu de ce qui est mort dans nos vies parce que Dieu a un plan. La résurrection est la finalité. Tout ce qui est mort peut être appelé à revivre. Marthe lui dit, il est mort. Il sent déjà, il est mort, mes yeux le voient, il est mort, mon odorat me le confirme, il sent, c'est fini, il n'y a plus d'espoir, t'es arrivé trop tard. Quelqu'un doit entendre, Jésus n'est jamais en retard. Jésus n'est jamais en retard. Il vient au moment parfait. Jésus lui dit, « Est-ce que je t'ai pas dit? » Quelqu'un doit entendre ça ce matin. « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » La puissance de la résurrection, elle est pour toi ce matin. La puissance de la résurrection, elle est pour nous ce matin. La puissance de la résurrection, elle est au bon moment, au beau temps, au moment que Dieu a choisi, défini. La résurrection vient changer l'incrédulité en une foi ferme et inébranlable. Elle avait entendu, mais elle pouvait pas le croire. Mais alors, lorsque Jésus prend l'autorité, le texte nous dit, en Jean 11, 41, 44, qu'ils ôtèrent la pierre. Et Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Jésus dira, « J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Et ce matin, je te parle de lui. Je te parle de la puissance de la résurrection, afin qu'elle devienne une expérience pour ta vie, afin que tu conçoives et que tu crois. La mort secoue nos perceptions, mais la résurrection est le fondement de nos convictions. Elle est la fondation, la résurrection, elle est la fondation de nos vies, de nos convictions, de notre assurance que Jésus n'est jamais en retard. Y a-t-il des gens qui ont besoin de voir ce qui est mort ressuscité en eux ce matin? Nous connaissons tous le chant merveilleux, Amazing Grace. Est-ce qu'on connaît ça, ce chant? Amazing Grace, grâce infinie, ou appelez-le comme vous voulez, tellement de versions. On connaît tous ce chant, Amazing Grace. Mais connaissez-vous l'auteur de ce chant et son histoire? Laisse-moi juste te raconter pour conclure l'histoire de John Newton, l'homme qui a écrit Amazing Grace, un chant qui a été connu internationalement, qui se chante depuis des centaines d'années. John Newton est né dans un foyer où la piété et l'amour étaient présents, par sa mère qui l'a élevé dans la foi chrétienne. Belle histoire. Cependant, la mort de sa mère et l'indifférence de sa belle-mère l'entraînent sur une voie de rébellion et de débauche lorsque sa mère meurt à l'âge de 7 ans, quand il avait 7 ans. Fils d'un capitaine de bateau marchand, il grandit dans un environnement marqué par la mer et la navigation. À l'âge de 11 ans, il rejoint son père à bord de son navire, mais ses relations avec lui sont tellement tendues qu'il est placé sous la tutelle de son oncle maternel. Newton n'a que peu d'intérêt pour l'éducation et la religion. À 17 ans, il commence à travailler dans un navire de commerce d'esclaves africains. Et pendant plusieurs années, il est impliqué dans le commerce, participant à des voyages maritimes qui ont vu d'innombrables vies brisées et détruites. Durant cette période, Newton mène une vie de débauche. Le mec a écrit Amazing Grace. Il vit une vie de débauche. Il se décrit lui-même comme un blasphémateur endurci. Mais en 1748, alors qu'il se trouve en mer dans une tempête violente, Newton a une expérience qui va changer sa vie. Il est confronté à la mort et à l'impuissance de l'homme face aux éléments. Et dans cet état de détresse, il va crier à Dieu pour la première fois de sa vie. C'est à ce moment-là qu'il se sent touché par la grâce et qu'il réalise l'ampleur de ses péchés. Il ressent un appel à quitter le commerce d'esclaves et quitte finalement la mer pour devenir pasteur en Angleterre. John Newton passe le reste de sa vie à prêcher l'évangile et à œuvrer pour la justice sociale. Il meurt le 21 décembre 1807, laissant un héritage durable en tant que défenseur des droits de l'homme et auteur de l'un des hymnes les plus aimés de tous les temps, le plus célèbre, Amazing Grace. John avait connu un bon départ, mais sa vie a basculé quand la mort s'est invitée alors qu'il n'avait que 7 ans. Il est passé de tendresse et piété à blasphémateur endurci, comme il le dit lui-même de lui. Puis il est passé de blasphémateur à pasteur témoin de la grâce. Confronté à sa vie, devant la mort, il a invoqué Dieu. Il a confronté son besoin de résurrection. Et Jésus l'a sauvé et transformé. Ce qui était mort est revenu à la vie. Peut-être que tu n'es pas en mer comme John Newton, mais peut-être que ta vie est dans une tempête en ce moment. Peut-être que tes pensées, tes émotions sont dans une tempête. Peut-être que tes sentiments sont dans une tempête. Peut-être que ton couple, tes enfants, ta famille sont dans une tempête. Quelqu'un doit entendre, Jésus n'est pas en retard. C'est le moment de saisir le miracle de la résurrection pour toi, pour ta vie. C'est le moment où tout ce qui est mort peut reprendre vie. Dans le stade de nos vies, nos actions d'aujourd'hui sont des répétitions pour l'éternité. Et on ne doit pas juger notre jeu par l'échauffement, mais par la performance que nous allons accomplir dans le match. On ne fait pas les statistiques des joueurs dans l'échauffement. On fait les statistiques des joueurs durant le match. Jésus t'appelle ce matin à entrer sur le terrain. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Alors, est-ce qu'on va commencer à chanter ce chant qui dit « T'es ma seule fondation ». Peut-être que tu es là ce matin, tu ne le croyais plus, mais Jésus te dit « Je ne suis jamais en retard ». La résurrection peut prendre place. Peut-être que tu es là ce matin et tu n'y crois pas, mais Jésus te dit « Je ne suis jamais en retard ». La résurrection peut prendre place. La croix devait incarner l'impuissance de Jésus. Mais Jésus en a fait le symbole de sa puissance et de son autorité, le lieu de la résurrection où la mort a été dépouillée et où tout peut recommencer. Il est le fondement inébranlable, le rocher sur lequel tu peux bâtir ou rebâtir ce matin. Même quand tout semble détruit, il est la résurrection, la vie pour tout ce qui est mort et qui est appelé à revivre. Est-ce qu'on peut chanter ensemble ce matin que Christ est notre seule fondation ?